Merci. Alors je vais aller plus vite sur certaines choses, puisque d'abord je vais enlever ça, voilà, puisqu'on les a déjà dites longuement, parce que effectivement j'avais fait un article plus particulièrement sur les dissections dont Anne-Lise s'est servie là. Mon objectif ce soir, c'est, au-delà de vous dire pourquoi j'en suis arrivée à écrire ce livre, c'est de vous présenter la cohérence du parcours qui fait qu'on entre, on commence jeune étudiant en médecine, on fait ses premières dissections, donc là j'irai vite, et puis si on décide d'être spécialiste, on passe l'internat. On fait des choses avec ses collègues internes et avec les médecins plus âgés qui vont permettre de devenir médecin. Et puis, on continue à faire des choses ensuite, quand on est à l'hôpital, qui vont aussi permettre de continuer à devenir médecin. Et finalement, on va pouvoir voir se dérouler un parcours extrêmement cohérent qui fait sens à la fois pour les médecins qui le suivent et à la fois pour tout le reste de la société qui utilise ces médecins pour se soigner. Donc Anne-Lise vous l'a dit, au départ j'étais donc médecin généraliste, et puis j'en avais un peu marre, j'ai rencontré des anthropologues qui m'ont confortée dans l'idée que c'était sûrement intéressant de travailler sur la mort, sur les blagues, et sur en fait le folklore carabin. Alors l'idée ensuite, ça a été de travailler sur des pratiques qui se passent dans les marges, en fait, dans les marges des études de médecine, et qui sont un peu décriées, un peu cachées, mais qui, une fois qu'on les met à jour, prennent tout leur sens. Alors, une chose qui me semble intéressante à souligner, c'est le fait qu'au début, parce que moi j'étais médecin, donc je partageais avec les gens que j'interrogeais, quoi, mes informateurs, je partageais une culture médicale qui, il y a un certain nombre d'étudiants en médecine ici dans cette salle, il y a peut-être un certain nombre de médecins, on sait que cette culture médicale, elle est quand même imprimée assez fortement dans l'esprit des jeunes étudiants, et que donc elle est très présente. Et moi, j'étais complètement là-dedans. Et donc, j'avais beaucoup de mal à prendre de la distance par rapport à travailler sur la médecine et travailler sur la dérision et travailler sur les blagues. Et j'étais toujours dans une position assez respectueuse parce que j'avais passé déjà 6 ans sur les bancs de la fac de médecine, et donc j'en étais assez marquée. Donc, pour reprendre un langage plus scientifique, je partageais donc les mêmes représentations que les gens que j'allais interroger. Et donc, c'était difficile, parce que j'osais jamais poser les bonnes questions, parce que je ne me les autorisais pas à moi-même. Donc, j'exerçais sur moi-même une autocensure, inconsciente, bien sûr, qui m'empêchait de poser les bonnes questions. Donc, il m'a fallu un peu de temps. Et alors, à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais plus dire à mes informateurs, aux autres médecins, que j'étais médecin moi aussi. Et là, ça a été pire que tout, parce qu'à ce moment-là, ils ont commencé à me raconter des belles histoires à base de vocation, qu'ils étaient des étudiants sérieux, travailleurs et tout ça, et que non, les blagues et tout, jamais de la vie, eux, surtout pas. Donc, il a fallu que je réalise que quand je disais que j'étais médecin, j'étais mal à l'aise, quand je disais que j'étais pas médecin, ils me disaient rien, que je digère un peu tout ça, et que j'essaye de trouver une bonne distance, me permettant de poser les bonnes questions et permettant à ceux auxquels je les posais de me donner des réponses, que sinon je bloquais au départ. Donc ça m'a pris un peu de temps, mais j'y suis arrivée, je crois, et ça a entraîné quelque chose que je n'avais pas du tout mesuré au départ, qui est le fait que je n'ai plus été capable de faire de la médecine clinique. C'est-à-dire que j'étais tellement omnubilée par cette histoire de comment on devient médecin et comment se crée le personnage du médecin que j'étais sans cesse en train de me regarder avoir des interactions avec les autres médecins, de me regarder avoir des interactions avec les patients, et ça m'empêchait complètement de fonctionner. Donc, j'ai arrêté de faire de la médecine clinique, j'ai fait de la médecine préventive, et puis après, j'ai fait de la recherche, mais ça, c'était un peu plus tard. Donc, pour dire que c'est pas totalement innocent d'être en position d'ethnologue quand on travaille sur quelque chose qui est proche de soi. Il n'y a pas que moi qui ai éprouvé ça, il n'y a pas que les médecins qui éprouvent ça. Ça nécessite de trouver la bonne distance, il n'y a pas d'autre mot. Bon, mais je m'en suis remise et, et ça ne me pose aucun problème. Je suis très contente de faire ce que je fais comme médecin. Bon, alors, quand j'ai commencé, donc là, on va un peu revenir sur les thématiques de recherche et puis ensuite, on va venir vraiment sur le parcours. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je n'avais pas prévu que je n'allais travailler que sur les spécialistes. Parce que je ne m'étais pas imaginé à quel point les témoignages des spécialistes allaient être plus riches que ceux des généralistes. Donc, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur la formation des généralistes. Il y en avait peu qui avaient travaillé sur la formation des spécialistes. Donc, du coup, on a décidé que je conserverai la première partie sur les dissections, qui est fondatrice pour tous les médecins, mais qu'ensuite, je me centrerai sur les spécialistes. Bon, en tout cas, au départ, l'idée, c'était qu'il y avait un paradoxe et une ambiguïté qui était vraiment récurrent autour de la dévalorisation de ces coutumes et de ces usages qui se passent dans les marges des études de médecine. En même temps, on dévalorisait et en même temps, on disait que ça faisait partie de l'art d'être interne et que c'était nécessaire pour devenir un vrai médecin. Donc, finalement, les questions que je me suis posées dans mon travail, c'était de savoir quelle était la place dans l'apprentissage des médecins de ces pratiques des marges et quel rôle ces pratiques jouaient dans la construction du personnage du médecin spécialiste, donc en France. Et en quoi ces pratiques sont spécifiques de cette formation dans ce pays. Alors au début, comme tout chercheur qui fait bien ce qu'on lui dit de faire, j'ai regardé si des gens avaient déjà travaillé dessus et s'il y avait déjà des articles, des livres, de la littérature scientifique sur ça. Or non, très peu. Parce qu'en fait, les sciences humaines ont travaillé sur les représentations du médecin, de la maladie, du malade dans la société, du pouvoir médical, donc Foucault et tous ceux qui ont travaillé derrière lui. Beaucoup de sociologues ont travaillé sur les dimensions sociales de la maladie, sur les modalités de la relation thérapeutique, mais finalement, personne n'a travaillé sur la formation des médecins. Les ethnologues qui ont travaillé sur l'Europe contemporaine, alors maintenant, ils travaillent sur les urgences, sur la chirurgie, sur des techniques de pointe éventuellement, mais encore une fois, pas tellement sur, ou pas du tout, sur la formation des étudiants en médecine. Il y a quand même deux anthropologues qui ont travaillé sur ça. L'un aux États-Unis dans les années 70, qui a travaillé à la fois sur les dissections et puis ensuite sur des fêtes qui se font à la fin des études de médecine sur la côte est des États-Unis, qui s'appellent les Graduation Follies, qui sont des spectacles où on critique en fait les malades. C'est différent avec ce dont on va parler nous, où on critique les patrons. Non, là-bas, on critique les malades, on les présente toujours. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je n'ai pas le temps. Ensuite, il y a un ethnologue anglais qui a travaillé, lui, à Londres, sur le cursus préclinique des étudiants en médecine dans les années 90. Et lui, il a travaillé comment les apprentissages officiels et non officiels sont imbriqués. Donc, quelque chose de proche de ce que j'ai fait, sauf que lui, c'était très limité dans le temps puisque c'est l'apprentissage préclinique. Alors que moi, à l'inverse, ça part de première année jusqu'à départ à la retraite. Et que d'autre part, on va le revoir, il y a, dans ce que j'ai fait, il y a vraiment des spécificités liées au système médical français. Alors par contre, je me suis appuyée sur des travaux d'ethnologues qui ont travaillé sur les formations coutumières de la jeunesse et aussi qui ont comparé qui ont travaillé sur des apprentissages professionnels qui avaient des liens, il m'a semblé, avec la formation des étudiants en médecine en termes de sélectivité, de création d'esprit de corps. Donc, les classes prépa aux grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, l'ENA, aussi un peu les écoles d'instituteurs, les écoles normales, voilà, donc des écoles qui forment vraiment des corps professionnels qui ont une identité forte. Donc, pourquoi personne n'avait travaillé sur les études de médecine? Sûrement pas parce que ce n'était pas intéressant, parce que vous allez voir, c'est extrêmement intéressant si vous vous en doutiez pas. Mais je pense que il y a une chose, c'est que l'autocensure des médecins est assez forte et ça renvoie à un autocontrôle, à un esprit de corps très fort. Hein. Bon, il y a un conseil de l'ordre des médecins, il y a quand même une culture qui fait que on est assez dans l'entre-soi et que le linge sale, on va le laver ensemble et que les histoires un peu marginales, on va pas trop les ébruiter. Et donc, les médecins n'ont pas l'idée d'en parler. Et du coup, les gens n'ont pas l'idée de leur poser la question. Alors, comment j'ai fait pour ramasser ce matériau? Comment j'ai fait mon terrain? Bon, j'ai été interrogée à peu près une centaine de médecins, depuis le jeune étudiant en médecine jusqu'au médecin à la retraite, des libéraux, des hospitaliers, des grands patrons, des médecins de base. J'ai aussi travaillé avec, j'ai aussi fait des entretiens avec des conjoints, des frères, des sœurs, des pères, des mères d'étudiants en médecine ou de médecins, des personnels d'internat, des directeurs d'hôpitaux, donc des gens qui pouvaient me donner leur opinion sur les internes. Je les ai vus à l'hôpital, je les ai vus dans leur cabinet, je les ai vus dans leur salle de garde, je les ai vus chez eux, ils m'ont invité au restaurant, ils m'ont invité à manger à la salle de garde, je les ai vus dans plein d'endroits. J'ai fait beaucoup d'entretiens à Toulouse, puisque moi j'ai fait mes études à Toulouse et que c'est là que je vis et que je travaille. Mais ensuite je suis allée partout en France, je suis allée beaucoup à Paris, mais je suis venue à Montpellier, je suis venue à Nîmes, à Marseille, à Nantes, en Strasbourg. D'autre part, parce que je travaille beaucoup en tant que médecin à l'étranger, j'ai aussi fait quelques entretiens. Puis j'ai eu une bourse Erasmus pour aller travailler en Italie comme anthropologue. Et puis ensuite, comme je rencontre des médecins d'ici ou d'ailleurs, je leur ai posé des questions pour savoir si ceci ou cela se passait chez eux. Donc ça m'a permis d'avoir, de faire un petit peu de comparatisme. J'ai fait aussi pour ma thèse, je suis revenue en travaux pratiques d'anatomie auxquels j'avais été quand j'étais étudiante. Et donc là, j'y suis restée beaucoup plus longtemps parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes avec les garçons d'anatomie, les gens qui préparent les corps. Donc là, j'ai eu droit, je ne vais pas y revenir parce qu'on a assez parlé des dissections, mais j'ai eu droit à aller dans les coulisses de l'exploit, aller dans les frigos. Enfin bon, c'était intéressant, on va dire, et assez engageant pour moi. Mais après, paradoxalement, j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter de travailler sur les dissections. Bon, enfin, on pourra y revenir si vous avez envie d'en savoir plus sur ça. Et dans la mesure du possible, bien que les sources écrites soient rares, j'ai aussi essayé de confronter mes observations avec des sources écrites. Alors, littérature scientifique, on a vu, il y en avait très peu, mais les médecins sont des gens qui écrivent beaucoup. Ils écrivent beaucoup sur eux en particulier. Et les dissections, comme c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps, ont fait l'objet de pas mal d'écrits. Donc là, j'ai pu aller chercher des choses dans ce type de documents. Bon, alors, ce que j'ai fait dans le livre et que je vais faire pour vous ce soir, c'est l'idée de présenter un parcours complet, même si ça n'existe pas dans la réalité. Quelqu'un qui aurait fait le bizutage le plus complet, puis l'enterrement le plus complet, puis participer à toutes les revues, non, ça n'existe pas. Mais artificiellement, j'ai voulu donner une continuité à chaque fois en situant d'où parlaient les personnes, de quelle époque, et ça permet de voir comme ça, comme les choses se correspondent, les pratiques et les usages circulent dans le temps et dans l'espace. Et mettons à Marseille, à un moment, on ne fait plus que des enterrements, alors que à Paris, on va faire que des tonus, mais les étudiants savent que ceci se fait là, et donc en gros, chacun peut savoir tout ce qui se fait et reconstruire le parcours. Alors, donc, les principales étapes de ce parcours, qui, je le rappelle, est totalement intriqué avec le parcours professionnel technique et scientifique du médecin. Mon propos n'est pas de dire que ce que je vous montre est plus important ou moins important que la formation scientifique et technique que reçoivent les... On n'est pas dans le même registre, on n'est pas dans le même niveau. En tout cas, les deux choses se passent en parallèle et on va le voir de manière très très proche et avec l'aval, plus ou moins, mais plutôt plus, de l'institution. Donc, les dissections, je ne vais pas trop m'apesantir. Tous les étudiants les subissent, entre guillemets, en France comme ailleurs. Alors, c'est variable. En Italie, par exemple, ça se fait presque plus. À la limite, ils peuvent voir un film en amphithéâtre, tous ensemble. En Suède, il y a beaucoup de facs où maintenant, c'est que de l'ordinateur. Aux États-Unis, on dissèque par groupe de 4 ou 5 pendant 6 mois le même corps. Donc, selon les pays, ça varie. Et selon les époques, ça varie. Moi, quand j'ai travaillé à Toulouse, les étudiants étaient tenus d'aller en dissection. Ils n'étaient pas tenus de disséquer, mais à leur demande, les dissections étaient devenues assister aux dissections étaient devenues obligatoires. On sanctionnait la présence ou l'absence et ça faisait l'objet d'un examen oral. À la demande des étudiants, puisque quand moi j'étais étudiante, ce n'était pas du tout le cas. On devait y aller, mais il n'y avait pas d'examen. On pouvait venir qu'une fois. Et d'ailleurs, c'était ce qui se passait. Enfin, c'était beaucoup moins valorisé par les étudiants. C'était valorisé par les enseignants, bien sûr, mais pas par les étudiants. Donc, dans tous les cas, un paradoxe qui est que tout le monde, tous les médecins peuvent en parler de ces dissections. Mais tous vont dire, c'est nul, ça sert à rien. Oui, on voyait rien, on n'apprenait rien, mais tous vont dire qu'il faut y aller. Donc le paradoxe et l'ambiguïté, elle est là. Ça sert à rien, mais on doit y aller. Qu'est-ce qui se passe lors de ces dissections? Anne-Lise l'a dit, c'est la première fois qu'on voit la mort, et c'est les premières transgressions. On va ouvrir un corps, on va mettre ses mains dedans, on va regarder ce qui s'y passe. Ce qui est réservé aux étudiants en médecine et ce qui ne va pas du tout de soi. Et donc, pour passer par-dessus ce qui ne va pas du tout de soi, ces transgressions si violentes, eh bien, dans les marges de l'institution, on va aider ces néophytes à changer leur perception du monde et on va les aider à acculturer tout leur sens à cette confrontation, parce qu'il va falloir le surmonter. Et à l'issue de quoi, on sera marqué à jamais, parce qu'on sera un médecin, si on a pu le surmonter. Et donc, comme on est fier d'avoir surmonté cette épreuve, en tant qu'étudiant en médecine, eh bien, on va le faire savoir, et en le faisant savoir, en racontant des blagues, on ne fait que se confronter aux stéréotypes du reste de la société qui... vous connaissez tous la chanson « Dans un amphithéâtre », il y avait un Maccabée, soin, tout ça, donc... pour tout le monde, ça va de soi que c'est évident que les étudiants en médecine doivent le faire et que surmontent ça à l'aise. Donc ça, c'est la première étape. Franchir cette étape, acculturer ses sens et savoir que parce qu'on l'a fait, on est un petit peu plus médecin que si on ne l'avait pas fait. Ensuite, donc, le deuxième temps de ce parcours ne concerne plus que les médecins spécialistes puisqu'on va parler de l'internat. Donc, l'internat, c'est une spécificité française. L'internat, qu'est-ce que c'est? C'est un concours qui a été instauré par Napoléon en 1802, en même temps qu'il instaurait les grandes écoles, polytechniques et tout ça. Donc, c'est la formation d'une élite et qui se perçoit comme telle dès le départ. Donc, la formation des futurs spécialistes qui, à l'issue de leurs premières années communes avec les étudiants en médecine qui deviendront généralistes, vont donc avoir droit à 4 à 6 années de plus pour devenir spécialistes, que ce soit d'une spécialité médicale, donc, je sais pas moi, dermatologue, pédiatre, ou d'une spécialité chirurgicale que vous connaissez. Donc, pendant ces 4 à 6 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apprendre leur profession, bien sûr, auprès de leur patron, en étant auprès des malades et en ayant en plus des cours et en apprenant entre pairs. Mais en même temps, ils vont aussi apprendre des manières de faire et d'être en salle de garde, auprès de leurs compagnons d'apprentissage, à l'internat. Donc, l'internat, c'est à la fois ce concours et c'est à la fois ce lieu dans lequel ces futurs spécialistes se retrouvent pour prendre leur garde, pour manger, pour faire tout un tas d'activités sociales propres à leur groupe, le groupe des internes. Et en même temps, l'internat, c'est un temps, puisque je vous ai dit que c'est limité, ça dure 4 à 6 ans, c'est le temps de la formation du spécialiste, et on va voir marqué par des bornes. Un lieu et un temps qui sont réservés, privés, pour cette élite-là. Bon, je ne vais pas m'apesantir, mais franchir la porte de l'internat, ce n'est pas anodin et c'est réservé à ceux qui ont le droit d'être là-dedans. Donc, encore une fois, on est dans la dimension de l'élite et en contrepartie de la dévalorisation de ceux qui n'ont pas le droit à cet internat et à cette formation, qui sont les médecins généralistes. Bon, la borne d'entrée dans cet internat, c'est le baptême. Donc, on passe un concours et qu'on réussit. Et en même temps, c'est redoublé cette réussite par un baptême qui ressemble à un bizutage, comme dans les grandes écoles, et qui témoigne de l'entrée du nouveau venu dans cette communauté qui l'accueille, la communauté des internes. Donc, avant d'être accueilli, il va y avoir des épreuves, des gages qui renvoient les jeunes internes dans leur statut de néophyte, qui les humilient, qu'on retrouve dans n'importe quel bizutage, mais qui sont, on retrouve, comme dans les autres bizutages, mais vraiment poussés à l'extrême, un rapport très particulier et très discriminant à l'accès à l'alcool et à l'ivresse. Mais pour les étudiants en médecine, évidemment, ce qui est spécifique, c'est la mise en place d'un rapport particulier au corps et à la sexualité. Dans tous les bizutages, il y a des fesses, il y a des seins qui sont montrés, mais chez les étudiants en médecine, c'est omniprésent et c'est particulièrement redondant et posé comme un fondement de ce qui va se passer plus tard. Alors, le paradigme de cette épreuve, il est pour moi dans la cérémonie de l'accouchement qui se déroulait à l'internat de Nîmes à travers un passe-plat. Alors, on ne peut pas projeter, c'est dommage, vous auriez vu une fresque magnifique. Je vais faire un petit aparté. Je ne savais pas que cette fresque existait. Je travaillais sur ça, le rite d'initiation des internes, patati patata. J'avais quand même aussi travaillé sur des sociétés entre guillemets primitives, dans lesquelles, pour les initiations de classe d'âge, ou pas que de classe d'âge d'ailleurs, pour les initiations en général, la référence à l'accouchement est omniprésente. Et on va toujours figurer ça de manière symbolique par, en général, un passage par un orifice étroit. Alors, ça peut être en branche, ça peut être bon. Et puis, donc, on y rentre néophyte. On passe dans cet orifice étroit. C'est plus ou moins difficile. Et on en sort différent, initié. Bon. On est dans le symbolique. Et là, qu'est-ce que je vois à l'internat de Nîmes ? Par hasard, donc. Une fresque tout à fait magnifique où est figurée une femme nue en position, donc vous pourrez la voir dans le livre, en position d'accouchement, en position gynécologique. Et le passe-plat est à l'endroit du sexe de la femme. Quand le passe-plat est fermé, la vulve est fermée. Quand le passe-plat est ouvert, la vulve est ouverte. Donc déjà... Et d'autre part, au moment du baptême des internes, ils passent de la cuisine au réfectoire à travers ce passe-plat, donc à travers le sexe de la femme. Donc là, brutalement, était figuré, devant mes yeux ébahis, un accouchement qui était pour moi le témoignage que le fait que le baptême des internes était une initiation à leur nouveau statut, c'était peut-être pas qu'une vision de mon esprit malade. Donc, je ne sais pas si vous mesurez, mais pour un chercheur qui est au début de son travail, et qui, c'est quelque chose de merveilleux et de fondateur et qui vous pousse à continuer à faire ce que vous aviez commencé à faire. Et tout ça par hasard. Donc je reviens un peu plus à mon texte. Donc, ce qui était là, donc la référence à la naissance biologique, elle est omniprésente dans toutes les initiations. Mais ici, ce qui était singulier, c'était qu'elle était littéralisée et que les médecins, donc dont on sait que c'est eux les tenants du savoir médical, le vrai, le bon, anatomique, et bien là, ils le mettaient en avant et leurs compétences étaient figurées à la fois sur le plan symbolique et sur le plan anatomique, on va dire. Bon, donc voilà, donc ça c'était le baptême, rite de la première fois. Je rentre dans la communauté des internes et j'en suis un. Mais ensuite, donc, ils y passent 4 à 6 ans dans cette salle de garde. Et là, on y apprend tout autre chose, c'est-à-dire on y apprend des manières, ce que j'appelle des manières de salle de garde, des choses qu'on apprend tous les midis en mangeant à table avec des internes plus âgés. Mais aussi lors des fêtes qui à Paris s'appellent les tonus, qui sont des fêtes vraiment spécifiques aux étudiants en médecine. On est gouverné en salle de garde par à Paris un économe, en province un président qui est parfois assis sur un trône plus ou moins phallique, qui connaît les règles, qui les applique, qui sanctionne si on ne suit pas les règles, en donnant des gages qui s'appellent des taxes. Et donc, ces règles sont contraignantes, sont souvent paradoxales et permettent aux futurs spécialistes d'acquérir un savoir-faire, un savoir-dire en d'autres choses, un savoir-être finalement, un savoir-être interne, d'être, on apprend l'art d'être interne, l'art d'être un spécialiste. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Un nouveau calendrier, ça marche de 6 mois à 6 mois, ça commence pas en janvier, mais en novembre. On apprend une nouvelle langue. Par exemple, on n'a pas le droit à l'internat d'utiliser des termes de médecine. Sinon, on a un gage. On apprend un code comportemental. On doit savoir quand est-ce qu'il faut montrer ses fesses ou pas les montrer. On apprend une nouvelle hiérarchie. À l'internat, il n'y a plus de hiérarchie comme à l'hôpital. Tout le monde vaut tout le monde. On apprend des devoirs aussi. On apprend tout un tas de choses qui sont ce qu'on a à faire en salle de garde, qui sont des rituels collectifs et qui fondent cette communauté. Ça permet à chacun en salle de garde de trouver sa place. On va se positionner les uns par rapport aux autres. On n'est pas obligé de faire tout au maximum. On peut aussi être en retrait, mais on sait qu'on est en retrait, mais on sait ce qui se passe au centre de la salle. Donc, une organisation concentrique qui a été étudiée par un certain nombre d'ethnologues, en particulier par Goffman, qui permet de voir que chacun trouve sa place, qu'il soit celui qui en fait le maximum au centre ou qu'il soit celui qui, à l'extérieur, regarde, à la limite critique, mais qui en tout cas est aussi partie prenante de ce qui est en train de se passer. Donc, l'idée avec toute cette prise en charge dans la communauté, c'est qu'on va pouvoir donner sens aux expériences que ces étudiants vivent ici et aussi à l'hôpital. Et on l'intègre dans une logique qui fait sens et qui aide à progresser dans son initiation. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en même temps, je vous ai dit qu'ils apprennent une langue, on ne doit pas parler de médecine à l'internat, en même temps qu'ils apprennent ces règles en salle de garde, à l'hôpital, ils apprennent un langage médical qui est extrêmement compliqué. Ils apprennent des attitudes professionnelles qui sont extrêmement codifiées. On ne fait pas n'importe quoi, ni avec les patients, ni avec les autres médecins, ni avec les autres personnels hospitaliers. Il y a des codes très précis. Le sens de la hiérarchie doit être extrêmement aiguisé, parce que l'hôpital, c'est tout un monde spécial. Un code de déontologie qui n'est pas évident à percevoir au départ. Bref, on apprend toutes les caractéristiques du monde hospitalier. Et on y reviendra à la fin, qui en même temps on apprend les caractéristiques et les codes de la salle de garde, et on verra que c'est tout à fait différent, mais qu'à la fois c'est très lié. À la fin de ces années d'internat, on peut être enterré. Et c'est à ce moment-là l'apothéose qui vient faire écho à ce baptême par lequel on a été intégré dans la communauté. Alors il peut prendre diverses formes, cet enterrement. À Montpellier, pendant longtemps, c'était une procession funéraire avec un corbillard à cheval, qui était toujours le même cheval, le même gars qui louait le truc, qui chaque année se plaignait que les internes stressaient son cheval avec des pétards et tout ça. Mais enfin bon, à mon avis, il devait le louer qu'aux internes, j'imagine. Bon. Donc ça c'était à Montpellier. À Toulouse, on était plutôt dans le registre du jugement dernier, avec mise en bière, éventuellement cercueil fermé, éventuellement mis en terre. Ça dépendait des années. À Marseille, quelque chose autour d'une mise en scène autour des bons et des méchants, avec les enterrés qui sont les méchants et qui ont droit à crucifixion, lapidation, enfin ça dépend des années, mais bon, sodomie, en fait tout un tas de trucs qui visent à les rabaisser, les stresser au maximum. À Paris, ça peut être juste une joute oratoire que les anciens vont toujours gagner, avec en particulier une spécificité qui s'appelle une veuve et qui est une lettre faussement élogieuse que fait une femme au médecin, en général au chirurgien, qui vient de tuer son mari par une succession d'erreurs médicales qu'elle ne perçoit pas comme des erreurs médicales et qu'on reproche à l'interne qui est enterré. Donc c'est extrêmement drôle. Mais il n'y a, y a rien de spécial qui rappelle un enterrement. Il n'y a pas de déguisement, il n'y a pas de chanson, il n'y a rien. Ce n'est que ça. En tout cas, l'idée, c'est que dans tous les cas, lors de l'enterrement, les anciens qui sont enterrés sont plus forts que les autres. Dans le registre propre à la salle de garde, ils savent tout et les jeunes ne peuvent pas les battre. Et un enterrement réussi, c'est ça. Les anciens ont la totale maîtrise des registres propres à la profession, et en particulier pour ce qui concerne la mort et le corps sexué, qu'il s'agisse de chanter, de mimer ou de faire. en même temps, les jeunes, s'ils ont bien réussi leur enterrement, s'ils ont bien fait peur aux vieux, mais quand même qu'ils les ont laissés montrer leur suprématie, à ce moment-là, ils passent dans la catégorie des enterrables et eux aussi, ils progressent dans leur cursus. Ça sera à eux après, où des jeunes vont essayer de trouver quelque chose de pire que ceux qu'ils ont fait subir à leurs aînés. Bien, donc on voit les parallèles avec les enterrements de la vie de garçon qui se passaient dans les villages auparavant. Mais, et c'est là que c'est bien, ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce qu'on n'est plus étudiant, on devient un médecin, on s'installe, ça s'arrête pas là, mais essentiellement pour ceux qui restent à l'hôpital. Parce qu'ensuite, il y a d'autres choses qui sont mises en place, qui s'appellent des revues, qui sont des spectacles satiriques d'une qualité quasi professionnelle, qui sont montés par des internes pour des anciens internes. Et l'idée, c'est que pendant le temps d'une soirée, ils vont renouer avec les pratiques de leur jeunesse, les pratiques de leur internat. Et ça va permettre de créer des liens entre les générations, puisque les jeunes vont montrer aux vieux ce qu'ils sont capables de faire et que les vieux vont voir ce que les jeunes font et se raconter des trucs. Tiens, machin, t'as vu celui qui a fait ça? Donc, on va parler les uns des autres et partager un moment qui est emblématique de, encore une fois, l'esprit de corps et la culture des médecins. D'autre part, ce que j'ai montré dans mon livre, c'est que ces spectacles qui sont valorisés comme vraiment de bonne qualité, et moi j'en ai vu, c'est vrai que c'est vraiment parfois excellent et de niveau que vous iriez voir par des chansonniers dans un cabaret et vous trouveriez que vous passez une très très bonne soirée. Donc, ce que j'ai essayé d'analyser dans ces revues, c'est que c'est une conversion esthétique dont on peut parler. Avouable pour le coup, de toutes les pratiques inavouables qui se passent lors des soirées et en salle de garde où là on le garde dans l'entre-soi. Là, la revue c'est tellement bien qu'on va en parler et on va mettre en avant le fait que vraiment, qu'est-ce que c'est bien. Même si pendant les revues, on va parler aussi de sexualité, de mort et de. Mais ça fait rien, c'est vraiment sublimé et présenté comme extrêmement réussi sur le plan artistique. Normalement, on ne doit pas parler des revues, c'est privé, c'est réservé, mais en fait, tout le monde en parle à l'hôpital. Le lendemain, tout le monde sait ce qui s'est dit, sur qui. Et pendant quelques jours, on ne va plus parler que de ça, ce qui montre. Et par exemple, j'étais allée à la Bibliothèque nationale faire des recherches quand je travaillais sur l'internat. Il y a des opéras ou des spectacles de théâtre montrés lors des revues qui sont enregistrés à la Bibliothèque nationale. Donc pour dire que ils sont tellement fiers de ces productions-là que ça peut aller jusqu'à ce qu'elles aient un numéro d'ISBN et qu'elles soient codifiées, que n'importe qui puisse aller les voir. Hein, voilà. Aussi, l'une des raisons qui fait que les revues sortent de l'internat, c'est qu'elles scandent en fait les grandes étapes d'une carrière hospitalo-universitaire réussie. Il va y avoir une chanson ou un sketch sur un patron lors de son agrégation. Si un patron n'a pas de chanson ou de sketch lors de son agrégation, c'est mauvais pour lui. Ça veut dire qu'il est très mal considéré par les étudiants. Ensuite, il va de nouveau y avoir un sketch lors du départ à la retraite de ce patron. Et puis ensuite, il peut y avoir des sketchs ou des chansons à chaque fois qu'un patron va faire quelque chose qui déplaît aux internes. Donc, toute la dialectique subtile des patrons dans ces histoires de revues, c'est d'être cité à la revue, parce que c'est bien, mais pas trop, parce que ça peut aller parfois très très loin, et il y a des gens qui sont jamais plus revenus à des revues après avoir été mis en cause très très durement. En tout cas, l'idée, c'est que ces revues participent elles aussi d'un processus continu de la construction du personnage du médecin et de cet esprit de corps des médecins. Enfin, une chose que j'ai découverte à Montpellier, là aussi, c'est la post-revue, qui est quelque chose qui se passe des fois après la revue, qui est extrêmement discret, dont on ne parle pas trop. Et qui est un moment où des anciens qui ont été investis dans la vie coutumière de l'internat vont avec des jeunes qui ont été investis beaucoup dans la préparation de la revue. Ils reviennent en salle de garde. Enfin, pour les jeunes, ils y étaient il n'y a pas longtemps, mais pour les vieux, ils n'y étaient pas venus depuis longtemps. Et ils rechantent des chansons de la nouvelle revue, des chansons des anciennes revues. Ils partagent à nouveau les anciens et les actuels ces coutumes, ces traditions, ces usages qui participent encore une fois de la construction du personnage du médecin. Alors, là, je vous ai déroulé tout le parcours. Maintenant, je vais revenir sur... Ça va? 9h30. C'est bon? Donc, je vais juste revenir sur quelques points sur lesquels je suis passée un peu vite et qui me paraissent importants. D'abord, l'idée que tout ceci se passe dans l'hôpital et que l'institution hospitalière sait, et que, en fait, les savoirs officiels de ce qui fait qu'on devient médecin et ces savoirs traditionnels se mettent en place en fait ensemble. Mais que finalement, c'est pas tellement, comme je le croyais au début, deux mondes parallèles, mais c'est vraiment en miroir, l'un répondant à l'autre, et les termes s'inversent, les dogmes du monde hospitalier, qui sont très forts, sont en fait inversés les uns après les autres en salle de garde. Alors par exemple, à l'hôpital, et pour devenir un bon médecin, on apprend à désexualiser son rapport au corps. En salle de garde, on observe une hyper-érotisation du corps. L'hôpital, calme, silence, décence. À l'internat, bruit, vocifération, exhibition. Propreté, hygiène, saleté, désordre. Vocabulaire technique spécialisé, vocabulaire trivial et obscène. Respect des hiérarchies, égalitarisme. On peut faire ce jeu dans plein d'autres axes, mais là, c'est vraiment les principaux, et vous aurez reconnu que c'est vraiment le fondement de l'hôpital. Le respect de la nudité du patient, le fait qu'on doit l'hygiène, la propreté, bon, tout ça. Donc, c'est comme si en salle de garde, on était dans le registre du carnaval, du charivari, où on va tout inverser pour critiquer, en fait, la hiérarchie. Mais, comme dans le charivari, ce qui se passe en salle de garde, c'est que les jeunes critiquent les vieux dans l'objectif de prendre place ensuite dans la société à la place où étaient les vieux. Et pour les internes, c'est ça. C'est-à-dire que, certes, ils vont critiquer les patrons, mais enfin, un certain nombre d'entre eux ont comme objectif de devenir un médecin hospitalier. En même temps aussi, l'idée, c'est que ces pratiques-là vont servir de soupape de sécurité par rapport à des choses difficiles à gérer et par rapport à une hiérarchie dont le poids est vraiment très lourd. Et c'est en ça que c'est propre, je pense, au système hospitalo-universitaire français, dans lequel le poids des hiérarchies et des dynasties est très marqué, et sûrement plus que dans d'autres systèmes hospitaliers en Europe ou aux États-Unis. Et c'est pas sans doute pas par hasard que les revues en France critiquent les patrons et le moindre de leur écart, et qu'aux États-Unis, on ne critique pas du tout les patrons, mais qu'on critique les patients. Et alors là, de manière qu'on jugerait, nous, insupportable. Hein. Et bon, je ne sais pas s'ils continuent à faire ce que Segal décrit dans les années 80, mais c'est vraiment politiquement incorrect vis-à-vis des patients. Bon, ce que font les internes vis-à-vis des patrons, c'est aussi politiquement incorrect, mais c'est devant eux. Tandis que les spectacles des Américains, ce n'est pas du tout devant les patients, ça serait impossible. Donc, quoi? Bon, une autre chose sur laquelle on pourrait revenir, mais il y aura peut-être des questions après, c'est que, bon, au départ, l'internat était une communauté masculine. Il n'y avait pas de femmes internes. D'abord, au début, c'était interdit. Et puis après, elles sont venues que progressivement. Maintenant, il y a plus de la moitié de filles. Donc, bon, ça, c'est pas propre à la médecine. C'est dans toutes les formations supérieures, même dans les écoles d'ingénieurs, il y a de plus en plus de filles, mais en médecine en particulier. Donc, c'est sûr que ça a entraîné des changements de pratique. Vous comprenez bien que des filles sont moins passionnées que des garçons d'inviter des prostituées en salle de garde, par exemple. Les fresques obscènes qui sont sur les murs des salles de garde, les filles peuvent être plus facilement peut-être choquées ou gênées par ce qu'elles représentent que des garçons, dans la mesure où l'image qui est renvoyée de la femme n'est pas franchement positive. Mais il y a peut-être deux choses qui se superposent. Il y a à la fois la féminisation et à la fois aussi un effet génération qui fait que les jeunes médecins, qu'ils soient des garçons ou des filles, ne sont pas prêts à consacrer autant de temps et autant d'énergie à leur profession, et donc ont moins besoin de cette soupape de sécurité et acceptent moins des pratiques qui auparavant étaient dans l'allant de soi. Enfin, un autre parallèle qui me semble intéressant, c'est celui qu'on peut faire donc avec les apprentissages modernes de corps professionnels comparables. Je vous l'ai dit au début, les écoles d'ingénieurs, l'ENA, tout ça, les écoles d'officiers aussi, Saint-Cyr, où on peut voir de la même façon des parcours initiatiques se mettre en place avec aussi ces dimensions fortes d'une vie communautaire, on est dans l'entre-soi, des rites imposés qui peuvent être extrêmement codifiés, à Saint-Cyr en particulier, c'est terrible, des mystifications, des paradoxes, des vocabulaires particuliers qu'il va falloir apprendre, un esprit de corps très fort et au final le sentiment de faire partir d'une élite, de faire partie d'une élite. Tout ça, les internes le partagent avec les écoles d'ingénieurs et Saint-Cyr ou les trucs comme ça. Mais par contre, ce qui est propre aux médecins et qui ajoute une dimension vraiment intéressante et spécifique, c'est la transgression des tabous aussi forts que ceux qui sont liés à la mort et à la sexualité. Parce que dans les écoles d'ingénieurs, on n'ouvre pas des cadavres. Et donc, c'est en quoi les médecins sont à jamais différents des autres étudiants ou des autres professions. Et c'est sans doute pour ça qu'ils sont les rares à vraiment mettre sur la place publique, à travers des défilés et le fait que tout le monde ici est capable de raconter des choses sur les salles de garde. Donc, ce sont les seuls à mettre sur la place publique ce que Daniel Fabre appelait les invisibles initiations dans les sociétés contemporaines, qui sont pensées quand même comme des sociétés sans initiation. Et pourtant, si on gratte un peu, la preuve, là, il y en a une magnifique. Donc, depuis 2004, il n'y a plus d'internat. Il n'y a plus de concours. Il y a un examen classant. Donc tout le monde devient interne. Alors quoi? Est-ce que ça va disparaître? J'en sais rien. Je ne suis pas revenue sur le terrain. On a des jeunes étudiants là qui vont pouvoir peut-être nous dire. Ce qui est sûr, c'est que quand moi j'ai travaillé donc dans la longue durée en interrogeant des médecins qui étaient déjà à la retraite ou en travaillant sur des écrits, on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement institutionnel dans le statut de l'interne et dans sa position dans la société et dans l'hôpital, il y a eu des changements de pratique en salle de garde. Quand il y a eu plein de filles, on a commencé à changer de coutume en salle de garde. Quand il y a eu plus d'internes qu'avant, il y a des choses qui ont changé dans les appellations, dans les choses qu'on faisait. Donc, est-ce que la disparition de l'internat va entraîner la disparition complète des coutumes de salle de garde? Je ne sais pas. Ce que je tends à penser, c'est que comme jusqu'à présent, elles se sont tout le temps transformées, là aussi, ça va se transformer. Ça ne va pas disparaître, mais il va y avoir autre chose. Quoi, je ne sais pas, il faut voir. Est-ce que dans le même temps où il n'y a plus d'internat avec un concours très sélectif et tout ça, on va voir changer la dimension de l'élite des spécialistes hospitalo-universitaires en France? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe pareil ailleurs et qui laisserait à penser qu'il y a quand même des choses qui se partagent entre médecins, que ce soit en Italie, aux États-Unis ou en France, c'est toutes les choses communes autour des dissections. Il y a quand même des invariants, il y a quand même des choses que tous les médecins du monde partagent. Mais ensuite, il y a sûrement des spécificités qui sont propres à notre système hospitalo-universitaire, celles que j'ai observées, et c'est peut-être ça qu'on va voir disparaître ou être remplacé par autre chose. Voilà, donc juste pour dire qu'il reste plein de travail à faire pour des jeunes ethnologues qui voudraient travailler sur ce sujet. Vous l'aurez compris en m'entendant, j'espère, qui est passionnant. Merci.